Ici Emmanuel Latraverse. Bienvenue à cette édition spéciale des coulisses du pouvoir. En 2014, année des grands bouleversements, de nouveaux premiers ministres prennent les rênes de près de la moitié des provinces. La donne politique au pays change.
Dans les circonstances, je vais quitter mes fonctions.
Dégringolade du Parti québécois, l'incertitude plane sur l'avenir du mouvement souverainiste. Les libéraux ont les coups des franges pour faire leur grand ménage.
Le moment des décisions difficiles est venu.
Pour nous, ce n'est pas un projet de loi. Je l'ai dit, c'est une déclaration de guerre.
Alors que le Parlement évite un bain de sang, un héros se révèle. Radicalisation, terrorisme, menaces islamiques. Pendant que les CF-18 frappent en Irak, le gouvernement est confronté à des choix difficiles.
Nous ne réagirons pas de façon excessive, mais nous ne resterons pas assis non plus.
2014 permet à certains de faire une entrée fracassante dans le monde politique.
Faire du Québec un pays!
Et à d'autres de le quitter. Certains tentent d'incarner le changement.
Ce que nous allons leur offrir, un gouvernement intègre qui rassemble et non qui divise.
Alors que d'autres ont de la difficulté à récolter le fruit de leurs efforts. 2014 est aussi l'occasion pour certains de planter les premiers jalons de réformes ambitieuses.
Dans les principes qui sont sous-jacents au projet de loi, il y a une question d'équité intergénérationnelle.
Mais là, ça, c'est le beurre, l'argent du beurre, la vache, le laitien, la ferme, là. On peut pas tout avoir dans la vie.
Tandis que d'autres s'imposent grâce à leur persévérance.
J'entends être là pour les 4 prochaines années pour diriger une opposition forte, vigilante et constructive.
Après ces grands bouleversements que réserve 2015, la continuité...
Comme promis, pendant les dernières élections, notre gouvernement va proposer une nouvelle mesure importante, la baisse d'impôts pour les familles.
Ou le changement...
Les conservateurs sont en train de proposer un plan qui va augmenter l'inégalité dans notre société et nous, on va s'y opposer.
Plus que 2 milliards de dollars par année sur une proposition qui aide seulement 15 % des familles les mieux nanties.
La relance du mouvement souverainiste.
Le peuple québécois qui se dira oui, oui à lui-même.
Ou des divisions douloureuses au Parti québécois. Et surtout, que faudra-t-il surveiller? Mesdames, Messieurs, bon dimanche. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition spéciale des coulisses du pouvoir. C'est devenu une tradition, donc, de retrouver notre panel pour dresser un bilan de l'année politique. Je crois qu'on peut dire que 2014 a été plutôt faste. Rappelez-vous que l'année a commencé en plein débat sur la Charte des valeurs à Québec, alors qu'à Ottawa, Justin Trudeau expulsait ses sénateurs de son caucus. Le moins qu'on puisse dire, c'est que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Donc, pour se remémorer les bons, les mauvais coups de cette année politique, discerner aussi les tendances de la prochaine année qui nous attend, nous allons passer la prochaine heure avec notre panel. Vous les connaissez, Alec Castonguay, chef du bureau politique de l'actualité, Chantal Hébert, chroniqueur au Toronto Star et à l'actualité, et Michel Séaugé, animateur du 15-18 dans la grande région de Montréal. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Plaisir d'être en personne, oui. Tous ensemble. Oui. Bien sûr, classique pour débuter ce genre d'exercice. Quel a été l'événement marquant de l'année 2014, toute capitale confondue? Chantal, à vous les honneurs.
C'est pas original, mais j'ai choisi l'élection québécoise parce que le résultat aurait pu influencer et va influencer le discours fédéral, mais dans un sens plutôt que dans l'autre, parce qu'il y a des messages qui ont été envoyés sur la souveraineté, entre autres. C'est une campagne qui a pris une tournure référendaire sur un référendum, ce qui n'était pas prévu. Ça a réglé le sort de la Charte, qui était quand même le projet phare du début de l'année. Je pense, moi, que c'est une défaite péquiste qui survient après la débâcle du Bloc. Ça resitue ce qui s'est passé avant. Et ça fait que là, on n'est plus juste devant des accidents de parcours. On est dans une lignée depuis 20 ans de déclin progressif de l'option souverainiste ou de ceux qui la portent. Et pour ça, moi, j'ai trouvé que c'était un événement charnière.
Alec, vous aussi, tout le monde est un peu d'accord. Oui. C'est le grand moment, Alec.
Oui, et j'ai choisi donc ce qui découle de cette élection-là depuis les 6 derniers mois. On est dans une période, certains diront, d'austérité au Québec, d'autres d'assainissement des finances publiques, mais on est clairement dans des choix qui sont difficiles, qui sont une conséquence de choix qui ont été faits ou qui n'ont pas été faits depuis plusieurs années. Là, le Québec est confronté à ces choix-là. Et ceux qui pensent que c'est uniquement libéral, si on regarde bien le budget que Nicolas Marceau avait déposé, il y avait exactement les mêmes cibles budgétaires. On n'avait pas déposé les crédits avant les élections, c'est toujours pratique. On ne sait pas où les compressions auraient eu lieu. Mais clairement, la CAQ, les libéraux et donc le Parti québécois s'entendaient sur un certain assainissement des finances publiques. Peut-être pas au rythme rapide auquel Philippe Couillard est actuellement en train de faire ses changements, mais clairement, là, ça va influencer aussi le début de 2015. Là.
Michel, c'est la défaite de Mme Marois davantage que la victoire de M. Couillard pour vous.
Je pense que l'événement historique n'est pas la victoire de M. Couillard, tant pis pour lui. C'est la défaite de c'est la défaite de Mme Marois du Parti québécois. Une défaite historique, le pire score du Parti québécois depuis 1970. L'option souverainiste a été au cœur de cette campagne-là. Elle est maintenant vraiment en déroute et à Ottawa et à Québec. Et on verra si la course au leadership du Parti québécois qui s'en vient va la remettre en selle ou pas. Ce n'est pas certain. Là, les péquistes se parlent entre eux. C'est très bien. Ils vont beaucoup parler de souveraineté. Est-ce qu'après ça, le nouveau chef, que ce soit bien Carl Pelladeau ou un autre, sera capable de reprendre ce cheval-là? Ça, c'est dans 3 ans et quelques et on a le temps de voir beaucoup d'eau couler sous les ponts.
Malheureusement, en politique, c'est toujours des événements qui finissent par prendre toute la place au point d'en occulter certains dont on devrait parler davantage, qui sont importants. Alex, c'est lequel pour vous?
En fait, ce qui passe inaperçu, je pense, sur la scène fédérale depuis 18 mois, c'est les piètres résultats du NPD dans les élections partielles qui s'accumulent les unes après les autres. Et c'est pas tant la faute de Thomas Mulcair, hein, qui est plutôt un bon chef, tout le monde le dit. Même Brian Mulroney a dit que c'est le meilleur chef de l'opposition depuis Diefenbaker. Donc, même ses adversaires reconnaissent qu'il fait un bon travail. Mais ce qui ressort de ces élections partielles-là, c'est que les anti-Harper, ceux qui veulent débarquer les conservateurs du pouvoir, se cherchent un champion. Et dans chacune des circonscriptions où les élections partielles ont eu lieu, c'était les libéraux qui avaient le plus de chances de débarquer.
Peut-être la tendance lourde de la dernière année.
On veut pouvoir mettre à la porte les conservateurs. Et si c'est un libéral qui peut le faire, bien, les gens se bouchent le nez, même ceux qui votaient NPD auparavant, et votent pour le libéral. Ça fait chuter les intentions de vote du NPD. Ça ne veut pas dire que ça va se passer à la grandeur du Canada. Il faudra voir l'élection. Mais il y a une tendance là, qui n'est pas bon signe pour le NPD.
Chantal, vous, votre événement important, mais dont on n'a pas assez parlé.
J'ai pris quelque chose qui était vraiment obscur, et c'est un référendum qui a eu lieu dans une ville en Colombie-Britannique qui s'appelle Kitimat. Et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que Kitimat, c'est la ville qui devait servir ou qui doit servir d'aboutissement au pipeline Northern Gateway. Et donc, qui profiterait des retombées économiques de ce pipeline-là. Or, ce référendum municipal s'est traduit par le rejet par la population de Kitimat de l'oléoduc. Et moi, quand je regarde ça, et on l'a vu depuis ce temps-là ailleurs, on l'a vu au Québec, l'idée qu'il va y avoir des retombées économiques, même pour la communauté la plus proche des retombées maintenant, permet pas aux oléoducs de passer la rampe. Et ça me semble excessivement significatif pour la gestion du dossier de l'énergie.
C'est précurseur, finalement, ce référendum.
Oui, parce que ces gens-là, on n'est pas là, dans un endroit plein de gens de gauche qui aiment les arbres. C'est des gens qui veulent gagner leur vie, mais ils ne veulent pas ça parce qu'ils craignent les retombées écologiques de ces oléoducs-là. Et ce que ça me dit, moi, c'est quand les provinces commencent à avoir des objections, c'est pas parce qu'ils se sont levés le matin en n'aimant pas le projet d'oléoduc, c'est parce qu'ils sont élus par des gens qui, de plus en plus, veulent pas appuyer les oléoducs.
Est-ce qu'il y a de surprenant là-dedans? C'est que quand on voit toute l'expérience du Northern Gateway, certains se diraient, mais quand c'était le temps de vendre Énergie Est, est-ce qu'on n'aurait pas tiré des leçons des échecs passés? À la lumière d'où en est le débat aujourd'hui, on n'en est pas nécessairement là.
Il faut croire que non. Il faut croire que non. Parce que Énergie Est fait essentiellement les mêmes erreurs. C'est essentiellement une grosse société qui arrive avec des gros sabots et qui ne se préoccupe pas de l'acceptabilité sociale. Puis à un moment donné, ben, que ce soit la pouponnière de Beluga ou que ce soit Kitimat, c'est le même effet à la fin.
Et vous, Michel, votre événement important, mais dont on n'a pas assez parlé sur...
Le nombre de citoyens entre 18 et 64 ans au Québec a commencé à diminuer pour la première fois. Les démographes vous diront, c'est pas trop grave, on peut vivre avec ça. Les économistes disent, c'est une catastrophe. À un moment donné, ça fait des pénuries de main-d'œuvre. Ça veut dire aussi qu'il y aura maintenant, très rapidement, beaucoup plus de retraités que de travailleurs pour supporter le régime de programmes sociaux. Mais surtout, ça veut dire un vieillissement accéléré de la population et les conséquences que ça, ça va avoir sur les finances publiques du Québec. Ça ne se passe pas qu'au Québec, les provinces maritimes le vivent également, mais c'est quelque chose qui a des conséquences majeures.
C'est un élément de la fameuse pédagogie que le gouvernement devait faire, qui reste à faire,
C'est non seulement vrai, mais ça va ouvrir un nouveau débat. C'est que l'une des seules manières de compenser cette perte-là, c'est l'immigration. C'est l'une des raisons qui fait que le Québec a encore une croissance économique qui se peut un petit peu. C'est les 50 000 immigrants qui arrivent chaque année, puis qui achètent des voitures, puis qui achètent des maisons, puis qui leurs enfants vont dans l'économie. Plus tu augmentes tes seuils d'immigration pour compenser la baisse de ta population active, plus tu as des débats de société à faire sur comment tu fais l'intégration. Ça va être probablement le prochain grand débat là, qu'il va y avoir dans les prochaines années. Là.
Et l'autre clé de ça, évidemment, c'est la participation des femmes au marché du travail. Et c'est donc les incitations aux jeunes familles à concilier travail-famille. Quand on regarde ça, on se dit la dernière chose que le Québec devrait vouloir, c'est décourager les jeunes familles de participer au marché du travail. C'est intéressant quand même de voir qu'une des premières cibles de l'austérité, c'est les jeunes familles, justement. Et là, il faut se poser peut-être quelques questions. Est-ce que vraiment on veut faire payer les jeunes familles plus pour qu'il y ait moins d'argent et moins de raisons de vouloir avoir deux parents qui travaillent?
Et à Ottawa, le fractionnement du revenu qui va exactement dans le même sens.
C'est ça.
Alors, c'est une combinaison de facteurs.
Qui, lui, inciterait les femmes, justement, à rester à la maison. En tout cas, un des deux parents, il ne faut pas...
Mais souvent les femmes, parce qu'elles gagnent encore moins en moyenne que les hommes.
Mais c'est l'heure de faire une courte pause. Restez des nôtres. Dans quelques instants, notre panel nous révèle ses choix, ses étoiles, ses prix citron et ses révélations.
À vous maintenant de faire le choix, le seul choix qui s'avère intéressant pour l'avenir du Québec.
Je vais tout donner. C'est le combat de ma vie.
Il faut qu'à la fin de cette réforme-là, là, le patient voit la différence.
Merci, l'Ontario.
Je suis très malheureux de la déclaration que j'ai faite.
Les politiciens vivent l'euphorie de la victoire, les douleurs de l'échec. Ils doivent convaincre et écouter. Comme à chaque année, certains se sont démarqués, d'autres ont lamentablement échoué. Il y a ceux qui ont persévéré ou se sont révélés. Notre panel a bien sûr préparé son palmarès, de quoi donc relancer la discussion. Meilleur politicien de l'année, la médaille d'or 2014. Michel, à vous les honneurs.
Je vais vous surprendre, mais Gaétan Barrette. Parce que dans une province où le nombre de politiciens qui ont commencé des réformes et qui n'ont pas terminé est presque 90 %, M. Barrette a lancé plusieurs chantiers et il est allé jusqu'au bout. Il est allé négocier avec les médecins spécialistes qu'il représentait il y a quelques semaines à peine pour dire non, on va étaler les revenus. Il a fait sa réforme des structures, etc. Il a fait passer ses projets de loi. On verra si c'est la bonne méthode.
On verra si ça donne les résultats
escomptés. Ça, je ne veux pas me présenter là-dessus. Mais juste parce que le nombre de politiciens au Québec qui ont lancé des choses et qui ont arrêté à la première barricade est énorme, je vais donner ce prix-là pour cette année à Gaétan Barrette. Puis on verra si on lui donne encore l'année prochaine.
Oui, c'est ça. Vous, Alec?
Je vais le donner à Pierre Moreau, qui a joué un rôle cet automne assez important. En fait, c'est lui qui a lancé le bal de l'automne avec le projet de loi 3 sur les régimes de retraite des employés municipaux. Habile communicateur, parfois qui a tendance à y aller un peu du côté de la prétention. Il faut qu'il fasse attention un peu de la manière dont il communique. Mais en général, c'est un des bons communicateurs du gouvernement. Il a réussi à faire accepter les 300 millions de compression ville dans le pacte fiscal. Je pense que là, pour le prochain remaniement ministériel, on ne sait pas quand il va avoir lieu, mais probablement en 2015, il risque d'avoir un rôle encore augmenté, je pense.
Vous avez quand même nommé deux ministres qui ont été très critiqués, à qui on a reproché d'aller trop vite, d'être rigide, de ne pas faire de
Oui, d'ailleurs, de Michel compromis. Va se faire soigner par le docteur Barrette à
oui,
l'avenir.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Mais son médecin vient de l'abandonner.
C'est un radiologiste, mais il ne peut pas me soigner, c'est ça que je veux dire.
Mais quand on est mal pris.
Oui, quand on est mal pris, c'est un fait. Mais c'est quand même un fait que... Docteur Barrette, chez beaucoup de gens qui sont des experts du régime de santé, ce que je ne suis pas, disent, écoutez là, Tout a été essayé. Pourquoi on n'essayerait pas ça? Et c'est ce qui fait que, et qu'il ne s'est pas arrêté à mi-chemin, c'est ce qui fait qu'au moins, on aura la chance de savoir si sa recette va marcher, si elle pouvait marcher, parce que partout, on a fait, ah ben oui, mais là, on va changer le nom du CR3S pour le CR3S+, puis des choses comme ça, et à la fin, ça ne changeait rien. Mais là, si c'est une solution, on va le savoir.
Oui, c'est toujours un peu dangereux quand même si c'est une solution quand on joue avec le système de santé. Mais moi, je suis allée à l'extérieur du Québec voulant protéger aussi bien mes trottoirs que mon médecin. Puis j'ai choisi Kathleen Wynne qui a remporté le pouvoir en Ontario. La première femme a été élue, une victoire majoritaire. Il faut le faire quand même. Prendre un gouvernement qui a trois mandats dans le corps. Quand Dalton McGuinty a démissionné, il a éteint les lumières à Queen's Park. C'était vraiment, après moi, le déluge. Arrangez-vous sans moi. Il y avait des scandales partout. Personne donnait des chances à ce parti-là de revenir. Mme Wynne, c'est pas une politicienne qui correspond aux clichés traditionnels là, des Ontariens straight. John Tory, le nouveau maire de Toronto, serait le cliché. Quand même, une grand-mère lesbienne. Ça permet aussi à tous ceux qui disent que ça a été une année terrible où il y a eu un ressac contre les femmes en politique de dire, ben pas vraiment. Hein?
Elle est là
parce qu'à moins qu'on pense que les Ontariens sont immensément plus progressistes que les Québécois, ce que je crois pas, il faut dire que c'était un beau coup. Et puis, en plus, sa lune de miel, pour l'instant, se porte assez bien.
Maintenant, après les fleurs, le pot, vos prix citron, la pire performance de l'année, Alex?
Oh, écoute-moi, c'était même pas une course. Ça va à Yves Bolduc, là, la première, la deuxième et la troisième place dans mon palmarès. Aller à Yves Bolduc, ministre de l'Éducation, qui a commencé son mandat avec la prime de 215 000 $ lorsqu'il était député de l'opposition pour avoir pris des patients qu'il n'aurait jamais dû prendre à la base. On a essayé de défendre cette prime-là de manière tout croche au gouvernement. Même Philippe Couillard a eu de la difficulté avec cette crise-là, donc ça a mal commencé. Ses déclarations sur le fait que personne allait mourir s'il n'y avait pas de livres, ça s'est enchaîné avec sa réforme des commissions scolaires qui est embourbée. Ses propres députés des régions n'en veulent pas. La crédibilité est à zéro. Dans un remaniement ministériel, c'est le premier candidat à déplacer.
Oui, parce que là, maintenant, ça devient difficile pour lui de mettre en œuvre les réformes, d'après vous, qu'il veut...
Oui, le ministère de l'Éducation, c'est un gros ministère. Normalement, tu te fies sur ton ministre de l'Éducation pour donner l'exemple, puis là, présentement, c'est pas le cas.
Qui aurait pensé qu'au Québec, il allait avoir une levée de bouclier pour préserver les commissions scolaires? C'était supposé être l'affaire la plus inutile qu'on avait comme structure. Et là, M. Bolduc a réussi à y rendre populaire. Faut le faire.
Vous, Chantal, votre
non, dans le même esprit que Mme Wynne, j'ai choisi Pauline Marois. Elle a choisi le moment des élections, elle a choisi les thèmes. Elle a recruté Pierre-Carl Péladeau qui a donné cette saveur référendaire à la campagne électorale. C'est rare qu'on voit un cas de campagne électorale perdue semaine après semaine par la personne qui l'a déclenché plutôt que gagnée par le gagnant, Michel l'a dit. Et pour ça... On ne peut pas dire là, qu'on peut se dire d'autre chose que le prix citron. La dernière personne qui n'a pas réussi à se faire réélire après un mandat minoritaire, qui est partie comme ça, c'est Joe Clark.
Ça fait longtemps. Non?
Puis ça faisait longtemps. Lui, il ne savait pas compter. C'était un autre débat.
Ouais. Et vous, Michel?
Moi, c'est le nouveau Parti démocratique. Alec en a parlé un petit peu.
Vous trichez.
Je triche un petit peu.
On souligne.
C'est pas la faute de Thomas Mulcair, qui est le meilleur chef de l'opposition que moi j'ai vu depuis que je fréquente le Parlement fédéral, dans le temps où Joe Clark était chef de l'opposition.
Mais non pas dans le temps de Stephen Baker.
Non, ça, j'étais pas là. Je m'excuse.
Es-tu sûr?
Oui, je suis sûr. Puis t'étais, en tout cas, bon. Sinon, soit tu y étais. Alors, Thomas Mulcair fait tout ce qu'il faut. Mais on dirait que la marque de commerce du NPD, le fonds de commerce du NPD, ne colle pas quand les gens veulent une alternative à un gouvernement conservateur. C'est pas là qu'ils vont voir. Et c'est pas une question que, c'était juste le charisme spécial de Jack Layton. Bien sûr, ça a joué. Mais c'est pas ça le problème. C'est vraiment une question de fonds de commerce. On ne voit pas ces gens-là.
C'est le fonds de commerce ou son incapacité à créer un lien avec l'électorat, par ailleurs?
Moi, je vois pas ça, cette difficulté à créer un lien avec l'électorat ou certainement pas avec la tribune de la presse, mais le fait est que le NPD est en recul d'un bout à l'autre du Canada. Ouais. Il n'est pas responsable, M. Mulcair, de ce qui se passe au Manitoba où il y a une crise, à Terre-Neuve où le parti est en implosion. Et c'est partout le même phénomène, les libéraux vont bien. Donc, le NPD va mal. On disait, quand le NPD a monté, que les libéraux étaient menacés de disparition, mais c'est vrai que la marque de commerce, le fonds de commerce qui est le plus résistant, c'est quand même le fonds de commerce libéral. Et là, M. Mulcair arrive un peu au bout de, de la logique de la chose. Surtout que ça ne se présente pas comme ça au Québec, où le NPD n'est pas en concurrence de la même façon, et surtout pas au provincial, avec le Parti libéral.
Maintenant, la révélation 2014, la belle surprise, le politicien qui nous a parfois réconciliés avec l'audace de l'engagement politique, Michel.
C'est pas une surprise, cette personne-là, mais c'est quelqu'un qui nous a réconciliés avec l'audace, c'est François Legault. Voici quelqu'un qui était laissé pour mort sur le bord du chemin deux semaines avant les élections provinciales, qui, pas juste parce qu'il a fait une bonne performance au dernier débat des chefs, mais parce qu'il a aussi dit, voici, je changerai pas de programme, je vais dire ce que j'ai à dire. Il a résumé ça en disant, c'est le combat de ma vie, là. Mais, et ça a bien fonctionné à la fin. Bon, il est le troisième parti en chambre, mais certains diraient, c'est quand même, il est quasiment le premier ministre aujourd'hui parce qu'on est en train d'appliquer son programme, sauf que c'est pas lui qui a la chaise et le chauffeur. Cela dit, M. Legault, il faut voir d'où il venait, comment il était en milieu de campagne. On se disait, il ne va même pas gagner son comté. Il va rester 3-4 députés de la coalition Avenir Québec dans la région de Québec.
Panel du début de la campagne.
Oh oui, on est capable de faire ça. On est capable de sortir ça. Alors, la belle surprise a été là.
Ouais. Aussi, hein, Alec?
Oui, j'avais mis François Legault pour les mêmes raisons, mais j'avais un deuxième choix que je vais exercer dès
toujours
maintenant.
Prêt.
Toujours prêt. Je pense que Denis Coderre a eu une bonne année, 2014, sur la scène municipale. Il a réussi quand même à aller chercher le chef de l'opposition officielle, qui est Richard Bergeron, l'amener avec lui de son côté. A réussi, je pense, alors que Montréal est de quantité négligeable à Québec depuis si longtemps, à, par sa personnalité, avoir une meilleure oreille à Québec, notamment sur le projet de loi 3. C'était un combat qu'il a mené avec Régis Labombe. Je pense que le tandem, le duo avec Régis Labombe, lui le sert très bien et il l'utilise bien. Il ne fait pas tout de parfait. Il a une grande gueule, on le connaît, Denis Coderre. Mais il s'en sert pour mettre Montréal sur la map. Et je pense que ça faisait longtemps que les Montréalais avaient besoin de ça.
Et pour vous, Chantal, votre révélation?
Moi, je n'ai pas pris un politicien, mais je me suis dit qu'il n'y aura pas vraiment d'autre façon d'en parler. Ce qui a été ma plus grande surprise, comme beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps au Parlement, ça a été jusqu'à quel point les services de sécurité de la Chambre des communes sont dévoués pour protéger les gens qui travaillent dans cette communauté-là. Je pense qu'on les voyait pas comme ça. On savait que c'était surtout des messieurs, là, mais que c'était des gentilles personnes. Mais l'idée qu'ils mettraient leur vie en jeu pour protéger des gens sur la colline, c'est pas une idée qui nous venait naturellement, pas plus que celle d'ailleurs de l'idée que quelqu'un se promène avec une carabine dans les couloirs. Mais je pense que ça a été la plus grande surprise de la plupart des habitués du Parlement.
C'est la raison pour laquelle on leur a justement rendu hommage aux communes cette semaine. C'est bien beau parler de l'année qui vient de s'écouler, mais il faut penser à que nous réserve 2015.
Il faut faire ça aussi.
Il faut faire ça aussi. C'est un grand exercice. Restez des nôtres. On revient dans quelques instants.
Toutes les familles canadiennes ayant des enfants auront plus d'argent dans leur poche.
Au terme d'un premier mandat du NPD, on est persuadé de pouvoir créer ou maintenir 400 000 espaces à tarifs réduits.
Je veux gouverner dans l'intérêt de tous, pour les prochaines générations, pas juste pour les prochaines élections.
À Ottawa, bien sûr, l'année 2015 sera l'année des grandes manœuvres électorales. D'ailleurs, les chefs, on l'a vu pendant l'automne, ont souvent semblé en campagne électorale. Ce qui ne veut pas dire que 2015 ne nous réservera pas aussi quelques surprises. Mais pour commencer, une question existentielle, on va la régler. Les élections, M. Harper va vraiment attendre à l'automne, d'après vous?
Moi, je pense que oui, à l'automne, oui.
Moi aussi, je crois.
Il y a une loi sur les élections à date fixe qui dit l'automne.
Vous l'aurez entendu ici, de la bouche de nos panélistes, octobre 2015.
Donc, préparez-vous au printemps.
Préparez-vous. C'est seulement l'enjeu des élections?
Non, mais c'est les chèques d'allocation familiale que le gouvernement a annoncé. Pour toutes les familles là, qui ont des enfants de moins de 18 ans, ces chèques-là, les premiers 6 mois dans un seul chèque vont arriver le 1er juillet. Qui veut aller en élection avant que les bonbons arrivent?
Est-ce que il y a eu quelques spéculations qui sont venues et parties au cours de l'automne sur l'avenir de M. Harper, s'il voudrait prendre cette marge dans la neige. Est-ce qu'il y a des signaux en ce moment à cet effet-là où vous, vous n'y croyez pas? Ou...
Moi, j'ai arrêté d'y croire le jour de la rentrée parlementaire en septembre, quand M. Harper a fait un discours loin de la colline, trois coins de rue, mais quand même pas sur la colline. Et ça, c'était vraiment un appel aux troupes et un appel au drapeau. J'en ai conclu que c'était pas un homme qui s'en allait. Mais s'il le faisait, les conservateurs, rendus à la fin de l'année, là, seraient pris dans un calendrier un peu difficile.
C'est un peu qui a aussi invité même les médias à son party de Noël de son caucus. Autre signal, généralement, pour une prise d'image, il faut le dire.
Mais il ne vous a pas invité à un party de Noël au 24 Sussex cette année.
Non, pas au 24 Sussex, sinon il faut le mentionner. La joute électorale, il demeure quand même très serré, bien malin, celui là qui pourrait dire en ce moment qui va remporter les élections la prochaine fois. Un peu, chaque chef a certains devoirs à faire, on dirait. Si vous aviez à choisir un chef, un devoir pour vous, la priorité, Michel?
C'est un peu le corollaire de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le NPD et Tom Mulcair. Tom Mulcair doit se dissocier du NPD et il doit devenir, jusqu'à un certain point, l'alternative à Justin Trudeau. M. Trudeau n'a jamais fait de campagne électorale. Ça se pourrait que ça ne se passe pas bien. Auquel cas, les gens commenceraient à regarder Thomas Mulcair avec un autre œil. Et il faudrait, à ce moment-là, qu'il ne soit pas toujours en face de « Oui, mais c'est Thomas Mulcair et le NPD. » Puis le NPD, ben, vous ne l'aimez pas. Hein? Ce n'est pas les gens que vous voyez au pouvoir. Il faut qu'il se dissocie. Il faut qu'il se fasse une image qui lui est propre et qui lui permettrait éventuellement d'être la solution de rechange.
Pour vous, Chantal?
Vous avez remarqué que Stephen Harper, après la fusillade au Parlement, est allé donner l'accolade à ses rivaux de l'opposition qui ont failli tomber à la renverse. Il a nommé une femme à la Cour suprême, une avocate du Québec, et ça a fait l'affaire de la communauté juridique. Il est allé aider Michaël Jean à devenir secrétaire général de la francophonie. Je dirais que M. Harper a intérêt à continuer à montrer son côté sucré. Et d'ailleurs, dans les sondages, on voit que le Parti conservateur a quand même eu un bon automne. Il faut que M. Harper, s'il veut gagner les prochaines élections, convainque les gens modérés, il y en a, qui ont voté pour lui la dernière fois, qui ont fait la différence entre sa minorité puis une majorité, de le refaire. La plupart de ces gens-là ont déjà voté pour Jean Chrétien ou Paul Martin dans une autre vie et ils ne sont pas très intéressés à voter pour quelqu'un qui parle comme Preston Manning.
Il n'y a pas que les élections dans la vie, par ailleurs. La politique fédérale, il y a beaucoup d'autres débats. Si vous, il y a un débat au-delà de la joute électorale que vous allez vouloir surveiller au cours de la prochaine année, qui vous semble vraiment crucial pour vous, Chantal, ce serait le cas.
Le débat sur le droit ou pas au suicide assisté, la Cour suprême va rendre une décision dans la prochaine année, avant les élections. Il y a des députés, même au sein du caucus du gouvernement, qui poussent là-dessus, un projet de loi au Sénat. Il n'y a aucun parti qui a beaucoup d'appétit pour ce débat-là, mais il y a beaucoup de Canadiens qui veulent avoir un débat là-dessus.
Pour vous, Michel?
Les finances publiques du Canada avec une situation de baisse du prix du pétrole qui a l'air de vouloir s'installer pour un bout. Et les politiques du gouvernement Harper ont été vraiment de faire du Canada, sans dire un État pétrolier, mais il y a quand même beaucoup de pétrole dans les finances publiques du Canada.
Oui.
Et là, si le prix du pétrole continue de rester bas, ça va être un problème pour les finances de plusieurs provinces, l'Alberta, bien sûr, au premier rang. Ça va être un problème pour les finances publiques du Canada. Puis aussi, ça va être un problème pour la structure de développement économique que M. Harper a mis en place pour le Canada, pour l'économie canadienne en général. On a juste vu dans les dernières semaines, là, le prix du pétrole baisse, puis la Bourse de Toronto est en train de faire une correction majeure.
Pour vous, Alec, votre grand enjeu à surveiller?
Dans le même sens, un peu l'énergie au sens large. Les provinces ont signé cette semaine, d'ailleurs à Lima, là, quatre provinces, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, un pacte pour collaborer davantage en matière de lutte contre les changements climatiques. Il va y avoir un sommet des premiers ministres provinciaux à Québec ce printemps, présidé par Philippe Couillard. On sent que les provinces là, en ont assez d'attente après le fédéral. Il va se passer quelque chose. Et l'une des raisons pour lesquelles il y a ce problème-là, entre autres dans les oléoducs, c'est parce que le fédéral n'a pas joué son rôle au cours des années. On a l'impression qu'on a tellement rien imposé comme réduction des gaz à effet de serre que maintenant, il faut être obligé de s'opposer aux oléoducs pour que le Canada fasse quelque chose dans cette matière-là. Donc, ça crée des problèmes pour les oléoducs. Ça crée des problèmes en matière de lutte au changement climatique. Et je pense que ça va être un débat qui va être très important en 2015. Là.
Voilà pour Ottawa. Maintenant, que nous réserve 2015 du côté de Québec? Restez des nôtres, la réponse de notre panel dans quelques minutes.
Le Parti québécois devait faire les choses autrement.
Je suis de ce que j'appelle la gauche efficace.
Il faut accélérer la cadence vers l'indépendance du Québec.
Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer pendant 8 mois.
Si des gens ne voient pas aujourd'hui la bombe à retardement que c'est
pour le Parti québécois.
Je n'ai qu'un objectif, avoir le courage de faire face à nos responsabilités, à mes responsabilités, et cela malgré l'adversité.
On se tourne vers Québec maintenant, où essentiellement deux grands axes vont animer la vie politique de la prochaine année, la course à la direction du Parti québécois, les choix du gouvernement Couillard. Donc, commençons par la course au Parti québécois, l'effet Pelado, si on veut. Il a commencé à apprivoiser la vie politique, quelques controverses, beaucoup d'attention. En bout de ligne, à l'heure où on se parle à la lumière de la dynamique de la course, M. Pelado risque à tout davantage, Chantal?
C'est un atout pour remobiliser les membres qui sont quand même assez découragés par le résultat des élections. C'est un risque parce que M. Pelado est un personnage polarisant qui porte la souveraineté et qui veut la porter. Et en bout de ligne, ça risque d'effaroucher plus d'électeurs que d'en amener au Parti québécois. Donc, à ce niveau-là, si je le comparais à Justin Trudeau, couronné, il est plus risqué pour ces raisons-là. Justin Trudeau, lui, étant risqué parce que à la fin, il y a encore des électeurs qui se demandent s'il y a de l'air dans ses pneus puis s'il va se rendre et s'il va faire de la route en campagne. Mais c'est un débat différent complètement.
Vous, Michel?
C'est les deux. Chantal a raison. Il est capable de faire parler du Parti québécois. Le Parti québécois a besoin qu'on parle de lui. Et c'est quelqu'un qui commande l'attention. Ça, c'est important pour un parti qui a subi une défaite historique, littéralement. C'est un risque parce que il n'a pas d'expérience politique. Il a tendance à s'enflammer rapidement, à en dire trop. Vous savez, quand son train est en retard, c'est la faute du fédéral. Ce qu'il avait dit sur Facebook, là, c'était pas nécessairement de meilleure tenue. Et l'autre histoire, et je regrette, mais c'est pas réglé, cette histoire-là, c'est la question des conflits d'intérêts potentiels qui va revenir à un moment donné, qu'on le veuille ou non. Et ça, ça peut être un problème à un moment donné si les chefs du Parti québécois et que les gens disent « Ben non, mais là ça va plus. »
Pour vous, Alec?
Le premier atout d'un politicien pour pouvoir passer son message, c'est d'être capable d'attirer l'attention. Justin Trudeau l'a, et Pierre-Carl Pelado l'a très bien aussi. Le taux de notoriété l'aide, le sert. Et son taux de notoriété, je dirais même avec sa femme, Julie Snyder. C'est un couple très médiatisé qui attire l'attention, et ça, c'est un atout en politique. Maintenant, il apprend son métier sous les feux de la rampe comme jamais un simple député ne l'a fait. Il est
bien
scruté.
Bien davantage que M. Trudeau, qui avait quand même fait
Et
qui a été élevé en politique.
Ouais. Alors, il apprend un nouveau métier qui est très différent de celui de diriger une entreprise, diriger un parti politique avec tous les égos, les compromis qu'il faut faire. C'est pas du tout du style de Pierre-Carl Pelado. Il va devoir apprendre ça pendant cette course au leadership-là. Donc, il y a quand même des risques. Et comment la greffe va prendre avec l'aile social-démocrate du Parti québécois? Ça reste un mystère. Parler de souveraineté, c'est le plus petit dénominateur commun au Parti québécois. Et c'est pourquoi, entre autres, Pierre-Carl Pelado en parle beaucoup. Il y croit, il n'y a pas de doute. Mais évidemment, ça rassemble tout le monde. Tout le monde est au Parti québécois pour la souveraineté. À partir du moment où tu commences à prendre position sur autre chose, et dans les 3 années et demie qui viennent, ils vont devoir le faire, comment tu concilies la tradition du Parti québécois de certains militants qui veulent être un peu plus à gauche avec ce que Pierre-Carl Pelado est au fond de lui-même? Ça reste un défi.
Il y a le choix du chef qui est toujours déterminant, c'est évident, dans une course à la direction, parce que lui donne, insuffle toute sa personnalité, son programme. Mais est-ce que, on en parlait au lendemain de la défaite, les choix existentiels auxquels ce parti-là est confronté, il demeure là? Est-ce que la course à la direction est susceptible de permettre de répondre à ces choix existentiels-là pour le PQ, Chantal?
Moi, tant qu'à moi, non. Je lis de plus en plus ce qui s'écrit sur ce que la base militante, celle qui est encore là, semble vouloir. On parle de souveraineté et de plus en plus, je lis l'inévitable explication que ce qui est arrivé, c'était circonstanciel. C'est parce que Pauline Marois était pas bonne, parce que Pauline Marois était une femme. Avant ça, c'était une autre raison. Avant ça, c'était une autre raison. Il y a toujours le bloc, c'est un accident, c'est parce que Jack Layton était trop charismatique la troisième fois. Il y a toujours une raison qui n'est pas la raison, parce qu'on ne veut pas avoir ce débat sur... Il y a peut-être un problème avec la souveraineté si 20 ans après, on est encore là et que les sondages montrent qu'un électeur qui a voté oui sur 10, 5, est passé au non.
Pour vous, Michel, l'enjeu
crucial,
existentiel.
C'est un peu la même chose. Vous savez, aux États-Unis, on dit, lorsqu'un candidat à président se présente dans les primaires, soit démocrate, soit républicaine, il est extrêmement à droite ou extrêmement à gauche, puis après ça, il court vers le centre. Le problème du PQ, c'est qu'ils ne peuvent pas courir vers le centre. Après avoir fait une campagne aussi forte sur la souveraineté qu'ils sont en train de le faire, et rien ne semble indiquer qu'ils vont avoir de grands débats sur l'avenir du système de santé ou les finances publiques du Québec.
Mais d'autres candidats que Pierre-Carl Péladeau tente par ailleurs d'imposer un peu...
Pas vraiment. Ils n'ont pas de grands débats là-dessus. Ils ont des débats sur le calendrier référendaire. C'est la seule chose qui actuellement... Évidemment, la course vient de commencer, là. Mais c'est la seule chose qui actuellement sépare les candidats. Sauf qu'à un moment donné, la course vers le centre, quand on a dit à tout le monde, à commencer par les membres du PQ, on est là pour faire la souveraineté, ce sera l'enjeu de la prochaine campagne électorale, ça va être pas mal plus difficile.
Alec?
Dans les assemblées générales que les militants ont tenues au Parti québécois, il y en a eu toute une flopée là, cet automne. Tout le monde semble d'accord sur le fait que l'ambiguïté référendaire n'est plus possible dans une élection. On a vu là, est-ce qu'on en fait un, est-ce qu'on n'en fait pas, à quel point ça a été difficile à gérer. Donc, ça, tout le monde s'entend et les candidats aussi s'entendent qu'il faut lever cette
l'obsèque,
faut le crever avant la campagne électorale. Donc, certains disent on n'en aura pas dans un premier mandat, d'autres disent on va décider un an avant les élections. Donc, toute la mécanique là, va être mise en place. Mais la gestion de l'article 1, là, comment tu la mets en place, ça va rester la problématique la plus importante. Pierre-Carl Péladeau, en entrant dans la course avec son poing levé, puis Pauline Marois qui parle après ça de monnaie, puis qui parle de banque centrale, puis de passeport, c'est ce qui a fait déraper la campagne. Clairement, les gens avaient l'impression que c'était pas l'endroit pour en débattre. Est-ce que le Parti québécois, dans 4 ans, va avoir suffisamment mis la table pour que ce débat-là soit le plus important de la campagne et donc qu'on puisse y aller à fond la caisse sur la souveraineté? C'est ce que Pierre-Carl Péladeau souhaite. Est-ce que ça va être possible? Ça reste un mystère pour l'instant.
On est dans un film qu'on a déjà vu. Ce film-là s'appelait André Boisclair. À un moment donné, le PQ a choisi M. Péladeau déjà. C'est presque plié, cette histoire-là. Qu'est-ce qui est arrivé pour André Boisclair? On disait tout ce qui nous manque, c'est de montrer qu'on peut passer à la génération suivante. Après ça, c'est l'autoroute pour la souveraineté. Là, c'est exactement le même argument, mais c'est ce qui nous manque, c'est les gens d'affaires. Avec Péladeau, ça va être l'autoroute pour la souveraineté. Je connais la fin de l'histoire d'André Boisclair.
Alors, n'empêche, cette course continue à susciter beaucoup de débats. Je suis certain qu'on va continuer à en parler pendant la prochaine année.
Il faut qu'on fasse des panels toutes les semaines, hein?
Oui, c'est ça. Mais comme chaque année, notre panel réserve cadeaux et surprises pour nos politiciens. Leur choix, tout de suite après la pause. C'est une tradition qui dure depuis des siècles. Tous les ans, des sapins de Noël ornent nos maisons, mais aussi certains édifices publics. Daniel Thibault, donc, s'est demandé combien coûtent ces arbres qui brillent de mille feux durant le temps des fêtes.
Le Canada est l'un des principaux exportateurs d'arbres de Noël naturels. En 2013, plus d'1,5 million de sapins ont été envoyés aux quatre coins de la planète, du Japon aux Caraïbes. Ces arbres proviennent en majorité du Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. L'exportation de sapins de Noël génère la moitié des recettes totales de l'industrie qui s'élevait l'an dernier à 55 millions de dollars. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est moins de 3 % de ce que les ménages québécois comptent dépenser pour Noël. Plusieurs édifices publics font l'effort de poursuivre la tradition des fêtes en sortant leurs décorations. À Québec, 10 arbres sont installés devant l'hôtel du Parlement. Coût de l'opération, 6 000 $. Dans la capitale fédérale, 6 résidences officielles ont chacune reçu un sapin. Gracieuseté de l'Association canadienne des producteurs d'arbres de Noël, des arbres d'une hauteur d'environ 3 mètres qui valent 100 $ chacun. L'un des plus gros sapins au pays est probablement celui qui trône dans le quartier Saint-Roch à Québec, sauf qu'il s'agit d'une structure en aluminium d'une hauteur de 23 mètres qui contient 100 000 lumières, acheté pour 280 000 $. Mais le sapin de Noël le plus volumineux du monde serait en Allemagne. La ville de Dortmund a créé un arbre 2 fois plus grand en agglomérant 1 700 conifères. S'il était installé devant le Parlement à Ottawa, il atteindrait la moitié de la Tour de la Paix, un arbre géant dont le coût atteindrait au moins 350 000 $.
Et comme à chaque année, notre panel réserve des petits cadeaux potentiels, virtuels pour nos politiciens. Donc, Alex, je commence avec vous. Si vous aviez un cadeau à offrir à un politicien, lequel serait-il?
Alors moi, je donnerais Le rêve de Champlain, qui est la biographie, évidemment, de Samuel de Champlain, de David Hackett Fisher, au ministre Denis Lebel, bien évidemment. Parce qu'on aime tous Maurice Richard. Mais peut-être qu'en lisant la biographie de Champlain, il comprendrait à quel point le fondateur de la Nouvelle-France est important pour le pays.
Excellente biographie de Champlain.
Et qu'on ne peut pas débaptiser un ouvrage comme celui-là qui porte le nom de Champlain impunément. Et je pense qu'il l'a appris à ses dépens. Et au-delà de ça, les vrais militants conservateurs, là, ils n'étaient pas d'accord avec le changement pour la simple raison que le conservatisme, tu piges dans ton histoire, tes racines, pour expliquer les transformations de la société. Les conservateurs n'arrêtent pas de dire « Le pays n'est pas né en 1960 avec les libéraux puis la Révolution tranquille. On a un passé, puis il faut l'assumer. » C'est pas pour rien que le mot « royal » revient à la mode à Ottawa.
Oui,
et donc, soudainement, pour le pont Champlain, là, le passé, ça ne tient plus. Là. On recommence, on débaptise, on recommence à zéro. C'était un peu ridicule, puis je pense qu'un peu de lecture au ministre Lebel ne lui ferait pas de tort.
Je pense qu'il n'aimait pas ça. Hein?
Oui, il n'a vraiment pas de gérer celle-là.
De toute évidence.
Vous, Chantal, ça veut dire un cadeau de Noël pour un politicien.
Ce serait pour Justin Trudeau et je lui donnerais un Paul Martin. Parce qu'on va parler beaucoup d'économie au cours de la prochaine année. Et pour l'instant, M. Trudeau, comme Michael Ignatieff et Stéphane Dion avant lui, donne pas l'impression d'être particulièrement passionné par l'économie, malgré tous ses discours sur la classe moyenne. C'est pas nécessairement un défaut. Jean Chrétien non plus. Mais il y avait Paul Martin.
Ouais. Et vous, Michel, un cadeau pour un politicien?
Pour Philippe Couillard, un traité de pédagogie, n'importe lequel, parce qu'il ne suffit pas de gouverner dans la vie, il faut expliquer ce qu'on fait et bien l'expliquer. Les libéraux riaient toujours des péquistes qui faisaient des grands-messes avant de faire la lutte au déficit ou des choses comme ça. La grand-messe, elle avait un très beau côté pédagogique. Tout le monde sortait de là en sachant pourquoi le gouvernement voulait faire quelque chose puis quel chemin il allait prendre. Si on avait ça de M. Couillard, il y aurait peut-être moins d'ennuis.
Est-ce que ça inspire des résolutions à des politiciens pour vous, Chantal?
Oui, moi, j'en ai une pour Philippe Couillard. C'est beaucoup moins difficile que tout ça. C'est remanier le cabinet à la faveur du nouvel an.
C'est
pour se débarrasser de...
C'est vite fait, hein?
Oui.
Monsieur Couillard, qui va avoir des choix difficiles, on croit que l'austérité, c'est une chose, mais la suite des débats ne s'annonce pas plus facile non plus.
Savez, quand on est arrivé au déficit zéro, là, on va avoir des dissensions idéologiques dans le Parti libéral. Ceux qui vont vouloir baisser les taxes, ceux qui vont vouloir réinvestir, ça va être assez amusant, ça.
Et comme quoi les choix se recoupent. Pour vous, Alec, une résolution pour un politicien est votre choix?
Moi, je vais être un peu dur, mais je pense que Justin Trudeau devrait prendre un petit cours de français. Oral, du moins. Parce que son passage, notamment, tout le monde en parle, a été atroce. Non seulement la confusion dans les idées était présente, mais la confusion dans le langage, le nombre d'anglicismes qu'il y avait, c'était difficile à suivre. Et parfois, Justin Trudeau, peut-être est entouré beaucoup d'anglophones, il parle souvent en anglais, on le comprend, mais à un moment donné, il faut que tu puisses aussi passer ton message, notamment au Québec et aux francophones. Et une petite immersion avec certains de ses conseillers en français lui ferait peut-être un peu de bien, parce que des fois, et c'est pas méchant, mais on a de la difficulté même à suivre là, parfois son raisonnement.
Mais il doit parler français à la maison.
Oui, pourtant, bien sûr. Oui.
Vous aussi une résolution pour M. Trudeau?
Pour Justin Trudeau, d'écrire un autre livre, pas son autobiographie, parce qu'à 42 ans, c'est quand même un petit peu de bonheur pour écrire une autobiographie, un livre sur ses idées pour le Canada. D'habitude, quand quelqu'un se présente pour la première fois en politique, c'est ça le livre qu'il écrit. Il écrit le livre sur ses idées, sur ce qu'il veut faire. J'aimerais lire ça de M. Trudeau.
C'est la stratégie, on l'a dit, des libéraux de forcer les autres à dévoiler leurs grandes idées. Eux attendent. Vous croyez que ça commence à être difficile pour M. Trudeau d'attendre? Chantal?
Je pense que c'est plus difficile quand on vit dans la bulle parlementaire que dans la vraie vie. Moi, j'ai l'impression que de plus en plus, et ça les honore, les électeurs ont d'autres choix à fouetter que de s'inquiéter d'une journée à l'autre de qui dit quoi sur quoi. Qu'une fois que les élections sont déclenchées, ils commencent à s'en occuper. On l'a vu avec Jack Layton, qui est parti de rien, qui a gagné. Alors, quand on n'a plus rien à faire, les columnistes, là, on écrit une longue chronique sur pourquoi quelqu'un devrait faire blanc quand il fait noir. Puis ça ressemble à ça.
Et on risque de le refaire durant la prochaine année. Mais c'est malheureusement tout le temps que nous avons aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres pour cette émission spéciale. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, du repos et les coulisses seront de retour à l'antenne le 18 janvier prochain. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et merci à vous pour cette belle heure de politique. On pourrait continuer comme ça sans fin. Merci beaucoup.
Faut pas en prendre trop, c'est comme le chocolat.